Donc nous, notre présentation l'a intitulée « Continuité écologique des bords de route aux espaces de nature en ville, mobilité pour les hommes et les plantes », parce qu'en fait on a des recherches qui se croisent, Francesca et moi, qui traitent des continuités écologiques et des espaces de nature sur différents types de milieux. Et on s'intéresse notamment à la biodiversité floristique, donc aux plantes.
Alors, il y a aussi Clémence Chaudron, hein, qui ne peut pas être ici, parce qu'elle est en train vraiment de préparer sa soutenance de thèse qui aura lieu la semaine prochaine, mais qui est tout à fait dans ce genre de recherche, dans ces recherches-là.
Donc du coup, une première diapo pour vous présenter un peu les problématiques, les thèmes de recherche qu'on a, Francesca et moi. Tout d'abord, moi, la thèse que j'ai effectuée ici à Cythère, elle traitait des délaissés urbains, des friches urbaines, c'est le terme que je vais employer pendant cette présentation, c'est les friches urbaines, et ça traitait de la biodiversité végétale qui était présente dans ces délaissés, dans ces friches, et du lien avec l'aménagement urbain, et donc j'y ai étudié la contribution potentielle de ces espaces aux continuités écologiques. Sachant que faut préciser quand même que par délaissé urbain, par friche urbaine, j'entends des espaces nus, végétalisés, non construits, qui sont dans la ville et qui sont refuges d'espèces spontanées. Donc c'était le projet de recherche DUE.
Et la deuxième recherche s'intéresse d'emblée à une trame grise, hein, une infrastructure clairement de transport, le réseau routier départemental, donc c'est une trame grise, à laquelle on essaye aujourd'hui, suite au Grenelle de l'environnement, de joindre une trame verte. Hein. Donc on considère, et il y a plusieurs raisons fonctionnelles, écologiques qui le montrent, que les dépendances vertes du réseau routier peuvent être aussi des corridors, aussi non seulement pour la partie bitumée pour les hommes, mais la partie végétalisée pour... des plantes, des insectes, des animaux, etc. Donc c'est une trame grise à laquelle on essaye de donner un peu un sens aussi de trame verte, à quelles conditions, comment, pour qui, voilà. C'est un peu l'objectif de cette deuxième recherche qu'on a conduite.
Alors du coup, le premier exercice qu'on a fait avec Francesca, c'était de choisir entre les deux schémas. Donc pour le coup, nous, on est vraiment parti des schémas. Et ça vous étonnera peut-être pas, on a choisi le schéma 1 plutôt que le schéma 2. Donc on a déjà un peu exposé toutes les raisons pour lesquelles...
Oui, c'était effectivement surtout le manque de flèches,
ouais,
qui nous a un peu surprise dans le schéma 2. Et donc... Oui, effectivement, c'était... Comme pour les autres, c'est l'aspect un peu d'interaction qui était un peu davantage mis en valeur dans le 1 qui nous a fait pencher.
Ouais, et puis le deuxième schéma, on ne savait pas si vraiment, du coup, cette mise en place des différents post-it, c'était justement un système linéaire du haut vers le bas. Et puis, il y avait des termes qui nous paraissaient... que nous, on n'a pas vraiment utilisé... pour présenter nos recherches, ressources, énergie, pollution, vulnérabilité. Alors que dans le premier schéma, vraiment, on peut présenter nos recherches avec la majorité des mots présents, quoi. Donc du coup, on reprend tout au long de la présentation. Le premier schéma, et on va présenter si on a utilisé le post-it, si on ne l'a pas utilisé, ou si son utilisation est simplement implicite ou utilisée indirectement. Voilà. De quelle manière on est entré dans le schéma ? Nous, on a décidé de présenter nos recherches via l'objet spatial de la recherche, le support de nos problématiques. Ouais, on lit pas bien.
Pas du tout.
Donc du coup, nous, nos recherches, elles se sont focalisées en premier lieu sur un territoire. Donc là, il y a un système d'échelle qu'on présente au fur et à mesure d'un objet spatial au sens large vers un habitat proprement dit, donc les routes et les friches. Donc on a d'abord défini un territoire, donc la région centre, et au sein de ce territoire, on a deux milieux différents, donc le milieu urbain et le milieu rural. pour les deux recherches qui sont présentées. Et au sein de ces milieux, on a identifié des objets de recherche qui sont, pour le milieu urbain, les friches urbaines, les espaces de nature en milieu urbain, et pour les routes, c'est les espaces de nature le long des bords de route, donc les deux habitats qui font l'objet de nos recherches. Et sur ces objets de recherche, on s'est posé du coup des questions qu'on peut généraliser pour les deux recherches. Donc comment les activités humaines et la biodiversité végétale coévoluent les unes par rapport aux autres, et de quelle manière les fonctions socio-économiques et écologiques de ces systèmes coexistent, et comment elles pourraient converger, à quelles échelles. Et là, ça interroge la question des continuités écologiques. Donc finalement, ce premier ensemble de mots qu'on peut voir, donc territoire, milieu et habitat, c'est le support de notre recherche, les espaces de nature de divers milieux qui vont questionner l'écologie. Ça va ?
Oui. Ok. En fait ouais. Voilà, je reviens juste sur le fait qu'on a là des espaces qui sont... Comment dire, qui sont d'emblée des objets, soit pour vis-à-vis de fonctions, généralement qui sont des objets pour des fonctions socio-économiques. Hein. Les friches sont en ville considérées surtout comme des réserves foncières. Et les routes, on sait bien, ça sert pour transporter des hommes, des marchandises, voilà. Et en même temps, et ça c'est typique, parce que là, ce qui est important, c'est de voir que ce sont des espaces anthropisés. On travaille vraiment sur la nature anthropisée, hein, donc pas sur par exemple les espaces forestiers, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas anthropisés, mais ils le sont moins, hein. On travaille vraiment sur de la nature très soit dans des plaines agricoles intensives, soit dans des villes, et donc on trouve là des espaces de nature qui ont des fonctions complètement humaines, hein, socio-économiques, et auxquels on essaye aujourd'hui d'attribuer aussi des fonctions écologiques pour différentes raisons, parce que malgré tout, dans des espaces très anthropisés, ce sont les espaces de nature, ce sont quand même des espaces semi-naturels, hein, et donc on essaye de leur... on se rend compte qu'ils ont effectivement un intérêt sur le plan écologique, et on essaye, et c'est là la difficulté, de faire converger ces deux objectifs qui sont a priori divergents, en tout cas, pas forcément divergents, mais en tout cas qui ne sont pas censés converger, un intérêt, je dirais vraiment... Je ne dis pas un intérêt pour les hommes, un intérêt pour la faune et la flore, parce que, comme le dit un collègue, mais la faune et la flore, c'est aussi pour les hommes. Mais en tout cas, disons, une fonction socio-économique d'une part et une fonction écologique. Donc la question, un peu ce qui est en commun entre ces recherches, c'est quelles sont les conditions auxquelles ces fonctions pourraient converger. Est-ce que...
Et du coup, un peu comme l'a présenté Adèle juste avant, juste ce lien, cette interaction qu'il peut y avoir entre fonctions qui se relient plutôt à l'homme et fonctions écologiques, c'est l'objet du troisième temps de conservation de la nature. Et on a dans nos recherches, on a essayé de savoir comment ces espaces étaient pris en compte dans les politiques publiques. Là, ça y a le post-it politique qui entre en compte. En revanche, le pouvoir, il a seulement été implicite dans nos recherches. C'est plutôt comment on va mettre en œuvre des actions pour faire des choix ou appliquer des actions de gestion sur ces espaces. Donc ça, c'est l'étude des diverses politiques publiques. Et parmi ces politiques, il y a la question de la trame verte et bleue, qui, aussi bien pour les friches que pour les routes, peut être interrogée.
Donc là, on passe, je ne sais pas si vous avez vu, donc on passe les quatre post-it centraux pour nous. C'était l'entrée par le milieu, donc c'était cela. Voilà. Et là, on commence à passer effectivement au post-it du haut, hein, donc au pouvoir et politique, sachant qu'on utilise plus politique que pouvoir.
Oui. Donc juste pour détailler un peu les différentes recherches, moi dans ma thèse, j'ai étudié la prise en compte des friches urbaines dans les différentes politiques publiques d'aménagement, qu'Adèle a très bien présenté, donc je ne vais pas forcément, développer plus que ça. Donc dans le SRCE, dans les SCOT et les plus de deux agglomérations, l'agglomération de Tours et l'agglomération de Blois, et également dans le droit français, j'ai regardé si ces espaces étaient pris en compte. Et un peu comme ce que tu as présenté, on se rend compte que plus on est précis dans l'échelle spatiale, plus ces espaces sont mentionnés, mais qu'à l'échelle nationale et régionale, on n'a pas vraiment de prise en compte de ces espaces. C'est plutôt au niveau communal qu'on commence à voir une réflexion sur les friches.
Alors, maintenant, pour ce qui est... Des bords de route. Alors, le Grenelle de l'environnement, donc il y a dans la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, il y a l'injonction, je dirais, de mettre en place une gestion différenciée des bords de route, donc une gestion moins intensive de ces espaces-là pour justement favoriser, enfin c'est en tout cas l'objectif affiché, pour favoriser la fonction écologique de ces espaces. Et donc c'est ça la politique publique à laquelle nous sommes intéressés, c'est la mise en œuvre alors, par les conseils départementaux, puisque maintenant ce sont du fait de la départementalisation, ces routes qui autrefois étaient gérées par la DDT hein, par l'État sont aujourd'hui de compétences départementales. En tout cas, comment les conseils départementaux aujourd'hui mettent en œuvre cette orientation due au Grenelle, hein, d'avoir une gestion différenciée des bords. Alors, gestion différenciée, ça veut dire que, au lieu d'avoir la même gestion assez intensive sur tous les lieux dans une route départementale et tout l'espace transversal de la route, de la chaussée jusqu'au talus, on a une gestion différenciée, donc en fait. Concrètement, une gestion plus extensive, hein, moins fréquente, hein, et aussi plus tardive dans la saison. Donc, surtout, il y a plusieurs opérations de fauche. En fait, ça consiste essentiellement à sauter une opération de fauche, celle du printemps, hein, donc avoir une gestion plus tardive sur une partie de l'accotement, donc une partie de cet espace qui va de la chaussée au talus. Concrètement, c'est cette politique-là qui est mise en œuvre. Alors, officiellement, cette politique-là qui est mise en œuvre sur une partie du réseau routier. En réalité, c'est l'ensemble du réseau routier qui est géré moins intensivement, je dirais comment. Oui. Voilà. Donc, c'est cette question-là qu'on a interrogée. Auquel on s'est intéressé. C'est ce qu'on appelle le fauchage tardif. Alors, donc on voit déjà qu'il y a plusieurs niveaux, et ça c'est pour nous très important. Je pense que c'est vraiment ce qui a manqué, bon on va y revenir, hein, mais c'est un peu ce qui nous a manqué dans les deux schémas, et y compris dans le 1, dans lequel on s'est pourtant inscrit, c'est la pluralité des échelles. Ça vraiment c'est quelque chose qui nous... Alors que c'est vraiment tout le temps perceptible, on l'utilise tout le temps. Il y a, dans le cas des politiques publiques, une injonction du Grenelle, une mise en œuvre départementale et une réception tout à fait locale par les agriculteurs. Donc il y a au moins trois niveaux. Et aussi, tout à fait, ça c'est pour les deux post-it du haut, mais quand on s'est intéressé aux quatre post-it centraux, là, la partie qu'on vient de voir, sur le plan vraiment spatial des objets, là aussi on voit vraiment qu'il y a un territoire et local et après un habitat vraiment très, très matériel, donc vraiment le bord de route étudié très précisément. Et on a vraiment, c'est très difficile de ne pas parler de cette pluralité d'échelle qui est pourtant tout le temps, quand on s'intéresse à l'objet matériel, territorial ou aux politiques publiques, elle est tout le temps évidente.
Donc ensuite vient la question on a dans nos recherches
trois autres, donc là trois autres, quatre, un autre, un troisième niveau de post-it, hein, ouais. C'est les quatre post-it qu'on voyait là, donc pratique, usage, acteur et représentation. Ouais, voilà.
qui vont interroger le système d'acteurs en interaction avec les espaces de nature. Donc c'est aussi des questions qu'on a abordées pour ces deux projets, avec du coup tous les post-it qui sont utilisés pour le coup, les représentations usage pratique et donc tout ça qui concerne les différents acteurs qu'on va vous présenter après, avec du coup ce questionnement est-ce qu'on s'intéresse plutôt aux usages ou aux pratiques. Ici, dans le sens où on a étudié l'interaction entre espace de nature et activité humaine, on s'est vraiment interrogé sur les deux termes, les deux questions, donc les usages qui traitaient principalement de l'objet d'étude, les friches et les bords de route, et des pratiques, donc comment ces objets sont utilisés par ou pris en compte par les différents acteurs. Donc pour les friches, ce qu'on a fait comme travail qui peut être lié à ce système d'acteurs représenté par ces quatre post-it, c'est des enquêtes qu'on a effectuées auprès des citadins qui vivaient à proximité des friches et des gestionnaires de ces espaces, donc que ce soit les propriétaires ou les membres des collectivités, les élus ou les services municipaux, pour connaître un peu les représentations, les usages et les pratiques de ces espaces dans la ville. Et donc ça interroge aussi différentes échelles, parce qu'on a, il y a toujours cette question d'échelle qui est inhérente. Et donc on a pu, avec ces enquêtes, identifier les conflits exprimés ou potentiels qu'il pouvait y avoir sur ces espaces. Donc, qui interrogera, qu'on présentera plus tard, qui fait aussi partie du schéma numéro 1.
Et alors, pour ce qui est des bords de route, là aussi, on a fait des enquêtes auprès des agriculteurs et des gestionnaires territoriaux. Alors, sur les agriculteurs, on a fait des enquêtes qui demandent... Sur les deux, on a demandé leur représentation, donc à la fois les pratiques de gestion et leur opinion sur ces pratiques, sur les difficultés, etc. On a fait on a davantage approfondi le volet représentation pour les agriculteurs. Donc là aussi, on a travaillé à ces deux échelles d'acteurs, hein, donc des gestionnaires qui sont chargés de gérer tout un territoire, et après l'agriculteur qui est vraiment l'agriculteur riverain du bord de route qui est géré par les services départementaux. Et là, il y a des conflits qui sont clairement exprimés, beaucoup de ressentis de la part de, en général, du monde agricole sur la gestion des routes. En gros, bon, il y a aussi une pluralité de points de vue, hein, là aussi. Hein, il ne faut pas ne plus imaginer que les acteurs sont tous, même les agriculteurs, tous les mêmes, mais il y a un sentiment assez diffus qu'au moment où on leur demande de réduire l'utilisation des pesticides, notamment des herbicides dans la parcelle, ben on leur met des mauvaises herbes dans les parcelles à partir des bords de route qui sont moins gérés. Et ils accusent, donc ils se trouvent face à cette difficulté à la fois, cette injonction utiliser moins d'herbicides dans la parcelle, en même temps, juste ces espaces qui sont juste riverains de leur parcelle sont moins gérés, donc plus source de mauvaises herbes qui vont rentrer dans les champs. Et donc il y a un sentiment alors assez général que cette gestion des bords de route n'a pas de motivation réelle à part l'économie, hein, l'économie de personnel et l'économie de passage, parce qu'effectivement on passe moins fréquemment, et voilà. Alors ça, c'est un grief alors pas forcément unanimement partagé, mais majoritairement, je dirais, ressenti de la part des agriculteurs. Donc c'est vraiment un conflit. Et moi, ce que je voulais vraiment dire, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure au moment de l'intervention sur les mobilités, c'est que de fait il y a ça je voulais le montrer, on a interrogé donc les agriculteurs sur leur représentation mais aussi sur leur pratique, et il y a chez une partie des agriculteurs une intervention qu'on peut appeler compensatrice ou corrective de la gestion du bord de route. Effectivement, ils traitent et ils fauchent généralement, donc et parfois ils traitent, en tout cas une partie d'entre eux,
un espace, l'accotement et même le talus, qui n'est pas de leur ressort, hein, qui est vraiment de propriété et du ressort du Conseil général. Mais ils le font parce qu'ils estiment que ce n'est pas suffisamment fait, en tout cas ce n'est plus suffisamment fait par le conseil départemental. Du coup, on a à la fois une inefficacité réelle des mesures de gestion différenciées, puisque de toute façon ils gèrent les agriculteurs ce qui avant était géré par le conseil départemental, d'une part. Il y a aussi une très forte insatisfaction de la part des agriculteurs, parce que c'est quand même du travail, hein, qu'ils doivent faire, qu'avant ils ne faisaient pas, hein, qui était fait par le conseil départemental. Donc il y a à la fois une situation d'inefficacité de la mesure, de conflit, hein, d'insatisfaction par les acteurs, et en même temps, de la part du conseil départemental, finalement tout va bien, parce que de toute façon, en théorie, c'est respecté. Hein, effectivement, la gestion différenciée, elle est mise en œuvre. Il y a effectivement un allègement des opérations de gestion de ces bords de route réels, effectivement, par le conseil départemental. On ne peut pas les prendre en défaut là-dessus, c'est vrai. Mais du point de vue de la réalité, c'est d'autres acteurs qui reprennent ce travail-là, hein, ce sont les agriculteurs. Donc on a une situation un peu inextricable, parce que pour le conseil départemental, tout va bien. Pour les agriculteurs, tout va mal parce qu'ils doivent faire du travail en plus. Et qu'en est-il pour les plantes? Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, les agriculteurs ne se comportent pas comme les gestionnaires l'ont imaginé. Mais les plantes ne se comportent pas non plus comme les agriculteurs l'ont imaginé. Quand on traite, et c'est les agriculteurs s'en rendent compte et ils nous le disent, quand on traite de façon intensive par des herbicides ce bord de route, qu'est-ce qui se passe? On fait place nette, hein, donc c'est une surface qui va être vide, qui va être du coup occupée par des espèces beaucoup plus envahissantes et vis-à-vis desquelles les agriculteurs ont vraiment du mal à se débarrasser. Donc finalement, on a les plantes aussi qui ont leur propre... les communautés végétales, je dirais, qui ont un comportement qui est aussi difficilement pilotable, hein, d'une certaine façon, par les agriculteurs eux-mêmes. Et qui constitue du coup un réel problème. Quoi faire avec ces bords de route qui ne sont plus gérés, en tout cas plus autant, par le conseil départemental, qui sont source de mauvaises herbes? Et nous avons par ailleurs montré, parce que c'était un des travaux inscrits aussi en écologie des communautés, qu'effectivement, cette gestion-là apporte effectivement des adventices des cultures dans les parcelles. Du coup, le conseil départemental ne les gère pas, les agriculteurs les gèrent, mais quand ils les gèrent avec des pesticides, ça ne se passe pas bien. Du coup, ils les gèrent davantage avec de la fauche, donc des moyens mécaniques, mais ça prend du temps, hein, beaucoup plus qu'avec des pesticides. Donc, c'est une situation, je dirais, insatisfaisante et conflictuelle. Voilà. Alors, notre préconisation, mais bon, peut-être on va...
Donc du coup, comme Francesca l'a bien dit et comme on voit sur le schéma, il y a des conflits entre les différents systèmes d'actes, enfin les acteurs qu'il peut y avoir, les politiques qui sont mises en place et les influences que ça va avoir sur les milieux qu'on étudie. Mais donc là, il y a écrit influence sur les espaces de nature, mais à l'inverse, il y a aussi une influence des espaces de nature. On a oublié de changer le titre. Donc du coup, il y a vraiment une interaction entre les objets d'études qu'on a pris en compte, les espaces de nature et le système d'acteurs, et c'est finalement le centre des deux recherches qui est également le centre du schéma, donc cette interaction qu'il y a entre les différents systèmes sur un même milieu, milieu spatial. Et de la même façon que Adèle, on n'a pas étudié la résilience. C'est pas quelque chose qu'on a recherché.
Pas ici.
Pas ici. Et en ce qui concerne le terme adaptation, c'est quelque chose qui a été implicite dans notre recherche. Donc on a étudié ces milieux à la fois dans le passé. Pour comprendre leur état présent et éventuellement émettre des préconisations dans le futur. Donc il y a cette question d'adaptation, même si elle n'est pas explicite ou explicitement exprimée dans nos recherches. Donc on a étudié cette influence réciproque entre le paysage, donc l'héritage avec cette échelle temporelle, le milieu, les pratiques sur ce milieu et du coup les espaces de nature en milieu anthropisé. Donc pour les friches, quelques exemples très rapides de la recherche que j'ai fait. J'ai étudié l'influence du milieu urbain sur la flore des friches. Donc, par exemple, l'occupation du sol, l'influence de l'occupation du sol à une échelle locale et du paysage. Voir si en milieu urbain dense, on avait des perturbations anthropiques, des activités anthropiques qui allaient impacter la flore de manière plus importante qu'en milieu moins dense, où il y a plus d'espace vert autour des friches. Voilà un exemple d'études qu'on a fait sur les friches. Et au-delà de ça, au-delà de cette influence du milieu urbain, des activités anthropiques sur la flore des friches, on a regardé quelle était l'influence de ce milieu urbain sur les connectivités qu'il pouvait y avoir entre les friches. Donc, connectivités qu'on a regardées en étudiant la diversité des espèces et si on retrouvait les mêmes espèces entre deux friches et si deux friches sont très éloignées l'une de l'autre, est-ce qu'on va avoir une différenciation d'espèces ? Donc voilà, une façon de représenter, d'étudier les connectivités, en tout cas pour les plantes, dans le milieu urbain.
Alors là, pour qu'il y ait d'autres... la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres influences que des influences directement anthropiques sur ces espaces-là ? Oui, évidemment. Alors là, pour ce qui est des bords de route, donc on a étudié l'influence du paysage environnant sur la flore. On s'est surtout intéressé jusqu'à maintenant, parce qu'après on va comparer la gestion et le paysage, mais pour l'instant on s'est intéressé à deux dates. Est-ce que c'est le paysage est-ce que c'est le paysage d'il y a 30 ans ou c'est le paysage actuel qui va influencer en tout cas un paramètre de la flore qui est la richesse spécifique, donc le nombre d'espèces différentes sur ces espaces-là. Donc on a comparé l'occupation du sol d'il y a 30 ans à l'occupation du sol actuel et on a été assez surprise de nous rendre compte, parce qu'il y a d'autres travaux qu'il avait suggérés, mais dans d'autres milieux beaucoup plus extensifs que dans ces milieux-là, malgré les dizaines d'années de pratiques agricoles intensives, d'herbicides, de pesticides, de retournement du sol, c'est bien le paysage d'il y a 30 ans, c'est bien l'occupation du sol d'il y a 30 ans qui explique davantage, qui est davantage corrélé avec le nombre d'espèces différentes qu'on trouve aujourd'hui sur ces bords de route que le paysage actuel. Ça montre qu'il y a, malgré toute cette intensification, il y a malgré tout une mémoire entre guillemets des usages qui se sont reproduits pendant des dizaines d'années auparavant, qui se sont inscrits dans une occupation du sol qui aujourd'hui n'existe plus, hein. Et cette mémoire que les espèces végétales portent aujourd'hui n'est pas due, elle, c'est pas comme la mémoire de l'eau c'est une mémoire qui est due à la présence dans le, qui dit quelque chose de bien matériel, hein, c'est la présence dans la banque de graines du sol, dans le sol, hein, de graines, hein, qui sont là depuis des dizaines d'années, qui sont donc relatives à un usage du sol ancien et qui donc progressivement se développent, quoi. Donc voilà. Donc.
Et donc ces différentes ces jeux d'échelle temporelle et spatiale qui peuvent être présents dans nos recherches donc interrogent la question de l'adaptation qui est implicite, est indirecte. Et pour comprendre les enjeux globaux de ces deux recherches, c'est ces notions-là qu'on interroge et on se demande comment on peut prendre en compte ces objets d'étude dans les politiques publiques et comment on peut intégrer, en fonction de tout ce qu'on a vu, les fonctions écologiques de ces milieux à des espaces anthropisés. Et ça demande de prendre en compte ces jeux d'échelle et c'est l'objet des réflexions sur les trames écologiques, finalement.
Oui, absolument.
Donc avec juste un rappel, bon là on voit rien du tout, un rappel de la trame, une adaptation de la trame verte et bleue à la trame verte, enfin passage de la trame verte et bleue à la trame verte urbaine, donc qui est peu prise en compte dans la politique de trame verte et bleue globale à l'échelle du SRCE. Pourtant, la ville, c'est une barrière, elle est imperméable au déplacement des espèces, donc c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte un peu plus, de manière un peu plus importante. Et donc, c'est ça, finalement, l'enjeu global de la recherche sur les milieux, les friches en milieu urbain.
Ce qu'on a vu en bord de route, c'est qu'on est toujours habitué à imaginer cette... Je me lève parce que j'ai du mal à commenter. Imaginez donc cette trame grise de façon dans le sens longitudinal. Elle connecte différentes villes, différentes activités, etc. Mais finalement, elle a une existence aussi transversale. Hein, donc, puisque il y a les milieux adjacents qui interagissent, qui jouent un rôle. Alors, soit parce qu'ils influencent la végétation qui sera en bord de route, soit parce que justement, c'est la gestion de la végétation en bord de route qui va influencer les milieux adjacents. Et cette question de se dire, mais élargissons l'échelle plutôt que de rester collé à notre habitat, hein, donc les friches urbaines ou les bords de route. Regardons un peu le contexte dans lequel ces espaces de nature existent. Ça sert aussi à du coup faire un trait dans le jeu d'autres acteurs. Parce que si on reste sur notre habitat, bon ben là il y a que sur le bord de route, il y a que le gestionnaire de route, point, le conseil départemental et c'est tout. Et c'est pareil pour les friches urbaines, il n'y a que les propriétaires des friches. Bon, si on élargit un peu l'échelle, si on passe justement de la notion d'habitat à la notion de trame, hein, donc là il y a effectivement des acteurs, les espaces adjacents et leurs acteurs qui rentrent dans le jeu parce qu'ils y sont de toute façon, mais qui rentrent dans la question, dans le discours. Donc, la question c'est donc, et on, voilà, comment on est toujours vers la fin, donc comment proposer des orientations qui favorisent l'articulation entre ces différentes fonctions. Donc on fait un peu le lien entre l'aspect, la politique, hein, et le territoire, donc entre ces deux échelles, pour nous. On n'utilise pas le terme patrimoine, c'est un post-it qu'on n'utilise pas, ça, comme pour la présentation d'Adèle Debray. C'est vrai que quand on se situe dans ces approches en termes de trame et de continuité, on s'intéresse d'emblée à la nature ordinaire. Hein. Alors que c'est vrai que l'approche en termes de patrimoine, patrimonialiser un espace, donc, alors on peut peut-être aujourd'hui l'envisager de façon un peu différente, mais pendant très longtemps, en tout cas, patrimonialiser un espace, ça veut dire le mettre sous cloche. Donc on isole un espace, on le sort de son contexte et on dit ça c'est patrimonial, et par contre ce qui est à côté n'est pas patrimonial. Voilà.
Oui, donc là, patrimoine, là, c'est seulement implicite, c'est pas vraiment...
On n'utilise pas ce terme-là, on s'intéresse vraiment à la nature ordinaire et pas au patrimoine naturel. Bon, c'est une table qu'on n'a pas utilisée. Est-ce que les friches sont plus ou moins patrimoniales que d'autres espaces verts en ville? Voilà, on n'a pas...
Et donc finalement, ces propositions d'orientation qui vont favoriser l'articulation entre les fonctions socio-économiques et les fonctions écologiques, ça se rapporte aux questions de développement et de durabilité des territoires, des espaces qu'on a étudiés. Donc ça interroge le dernier socle, le dernier jeu de post-it tout en bas. Donc là, c'était juste, on va passer vite parce que ça fait beaucoup, on parle depuis longtemps, juste pour illustrer en quoi c'était important d'avoir de voir ces finalités, juste pour vous donner une idée de la trame verte qui a été identifiée par le SRCE sur le territoire d'études dans l'agglomération de Tours. On voit qu'en vert, en gros, c'est la trame verte et bleue identifiée. Toutes les friches que j'ai étudiées, là, elles sont en jaune, ça se voit pas bien, mais on voit que c'est au sein de la tâche urbaine propre de Tours. Et on voit qu'il n'y a aucun lien entre trame verte urbaine que peuvent former les friches étudiées. Et encore, on n'a étudié que les friches. Il y a plein d'autres espaces de nature en ville qui pourraient être inclus à cette trame verte urbaine. Et donc complètement séparé de la trame verte et bleue officielle présentée dans les différentes politiques publiques. Donc les objectifs futurs seraient de renforcer ce lien entre trame verte officielle et trame verte urbaine à proprement parler.
Voilà, donc notre préconisation, hein, si on peut dire, pour ce qui est de la... c'est vraiment d'élargir le point de vue, d'avoir une approche multi-échelle, donc de prendre en compte les espaces adjacents et du coup les acteurs adjacents, on peut dire, riverains. Ça, c'est peut-être pour ce qui est du travail sur les bords de route, c'est vraiment l'idée de dire, mais pour mettre en œuvre des procédures alternatives de gestion de ces espaces, il faut quand même le faire en discutant avec les agriculteurs. On peut pas, surtout, ce sont des espaces assez étroits et qui sont noyés dans une très grande matrice agricole. Donc, il est aussi peu réaliste d'imaginer que cette grande matrice agricole n'ait aucun effet directement par l'acteur ou indirectement par le transfert d'espèces, par des déplacements d'espèces, aucun effet sur ces espaces-là. Donc, il faudrait avoir une approche en termes de... Voilà, on s'adresse aux conseillers agricoles du coin, on organise des réunions avec les agriculteurs, on recueille y compris leur... Parce que, évidemment, j'imagine, la pratique de ça, évidemment, qu'on est face à une situation conflictuelle, donc c'est pas commode de tenir une réunion dans ces conditions-là. Mais en tout cas, il faudrait vraiment que les procédures de gestion, les pratiques de gestion de ces espaces-là soient au moins communiquées, voire négociées avec les agriculteurs en présence. Ça, c'est...
Donc du coup, si on prend du recul un peu par rapport à ce système qu'on a étudié et qu'on regarde du coup les recherches qu'on a fait, les finalités un peu extérieures de ces différentes recherches, de la même façon que comme c'est présenté dans le schéma, c'est identifier, imaginer des orientations pour identifier les conflits potentiels sur les deux objets d'étude et engager une participation des différents acteurs aux réflexions. Et donc, indirectement, ça va interroger la question de la gouvernance et directement la question de la gestion. Donc, on va peut-être passer sur les choses à prendre en compte pour identifier ces finalités juste en une seconde. Moi, par exemple, pour prendre en compte, pour mettre en avant la multifonctionnalité que peuvent avoir les friches en ville, on a étudié du coup le système de propriété qu'il y avait sur ces espaces, le zonage dans lequel elles étaient, enfin le zonage de ces espaces. PLU. On a également regardé l'évolution depuis une quarantaine d'années de ces espaces, mais aussi de l'occupation du sol qu'il y avait autour pour essayer de comprendre les mutations urbaines qui pouvaient mener à la création de ces espaces, pour ensuite comprendre quels espaces deviendront peut-être plus tard des friches, donc comprendre les temporalités de ces espaces, pour émettre à la fin des préconisations, des mesures pour prendre en compte ces milieux en fonction de tous ces éléments dans les différentes politiques publiques, et notamment celles qui traitent de continuité écologique.
Voilà, donc l'objectif, c'est ce que je viens de dire, c'est vraiment d'inclure les agriculteurs à l'élaboration des mesures de gestion, et ensuite éventuellement aussi d'envisager un vrai coteau, donc une large bande enherbée entre la route et le champ, donc envisager vraiment une dizaine de mètres dans le champ, entre vraiment le champ cultivé et la chaussée. Alors, ce qui pose toute la question de qui va payer pour ça. Mais bon, il y a quand même des outils aujourd'hui en termes de politique agricole commune pour envisager ce genre d'espace. Maintenant, sur l'ensemble du réseau départemental, ça fait des hectares indemnisés, ça fait des surfaces. Quoi.
Donc finalement, si on récapitule un peu par rapport au schéma global, là, on voit bien qu'on utilise quand même pas mal des post-it qui ont été mis dans ce schéma pour nos problématiques. Et ça rejoint ce qu'on dit tous les gens ce matin, que nous, c'est vrai, c'est des travaux en écologie, et peut-être que ce schéma est mieux adapté à ceux qui travaillent sur l'écologie. Là, on voit bien que, pour nous, ce schéma, il est vraiment bien adapté, quoi. On a 4 post-it qu'on n'utilise pas. C'est vraiment pas énorme. Et du coup, par rapport à la réflexion entre les deux schémas, un des manques principaux qu'on a vu, et Francesca l'a bien développé, c'est le jeu d'échelle qu'il peut y avoir et les dynamiques spatio-temporelles qu'il faudrait ajouter à ce schéma pour parfaire la réflexion, la description des recherches qu'on peut faire. Et c'est quelque chose qu'on trouve évidemment de manière c'est bien présenté dans le deuxième schéma, étant donné que c'est une approche plus globale comme on a vu dans ce schéma numéro 2. Bon, voilà, on pense que pour compléter ça, il faudrait ajouter cette notion d'espace, de temps dans le premier schéma pour avoir une représentation plus réelle des recherches qu'on fait. Et de la même manière, il y avait la question du projet qui est présenté dans le schéma 2 et qui, dans le schéma numéro 1, est finalement peut-être tellement évident aux yeux des gens qui ont construit le schéma qu'ils ne l'ont pas noté explicitement dans le schéma, je ne sais pas. Voilà. Donc, du coup, là, on peut peut-être rester sur ça pour conclure. Ouais.